Chapitre 8. Moyens et procédés du relèvement. Le méchant venait d'être ôté de l'assemblée d'Israël, mais, par la présence du mal au milieu d'eux, Dieu leur avait fait découvrir leur confiance en eux-mêmes. Souvent des cas pareils se présentent lorsqu'une assemblée est satisfaite d'elle-même. Elle se vante de son état, de ses bénédictions, de son accroissement. Israël fit de même. Le peuple eut confiance, non pas en Dieu, mais en sa victoire, et cette confiance devint le chemin de la défaite. Israël dut être jugé, puis il lui fallut se purifier du mal. Mais le jugement de soi-même et la sanctification pratique ne sont pas encore la restauration de l'âme. Il faut que la communion avec Dieu, interrompue par le péché, soit rétablie. Ici, je désire placer une remarque qui me paraît importante. Au chapitre 6, Dieu manifeste devant Jéricho sa puissance avec Israël en victoire sur l'ennemi. Cette même puissance se manifeste aussi dans la vie du chrétien. Il se peut qu'on jouisse de cette force divine, des victoires qu'elle apporte, et peut-être on ne connaît réellement encore ni Dieu ni soi-même. Josué aurait dû le connaître, lui qui avait fait personnellement la rencontre de l'ange. Le chef de l'armée de l'Éternel s'était révélé à lui, ayant l'épée nue en sa main, la puissance prête pour le combat et comme étant le saint. Puis, en compagnie du peuple, Josué avait vu cette puissance à l'œuvre devant Jéricho. Mais il fallait que sa conscience entrât en rapport avec la sainteté de Dieu. Il n'avait pas encore l'idée de ce que cette sainteté exigeait du peuple pour la marche. La colère de l'Éternel, chapitre 7, verset 1, doit se révéler à Israël et à son conducteur pour qu'ils apprennent que la sainteté de Dieu ne peut tolérer l'interdit. Connaître Dieu en puissance nous laisse encore bien des choses à apprendre pour posséder la vraie, la pleine connaissance de Dieu. D'autre part, il pourrait sembler que, lorsqu'on a passé par Gilgal, on doit en avoir fini avec soi-même. En réalité, on n'en a fini avec soi-même qu'autant que l'on se tient à Gilgal. Comme le peuple se connaissait peu après la victoire de Jéricho. Lorsque Dieu avait pris 1000 peines pour lui prouver que tout était de lui dans cette victoire, quelle suffisance! Quel oubli que de s'en aller sans Dieu au-devant de l'ennemi. Le résultat en est du recul, du travail, et quand ils reprennent l'offensive, toutes sortes d'embarras. Il faut que le peuple remonte un chemin pénible, semé de complications, un chemin qui met en lumière à ses yeux sa propre faiblesse, déjà manifestée aux yeux de l'ennemi par sa défaite. Il faut qu'il retourne en arrière, obligés de recommencer l'expérience d'eux-mêmes. Mais cette expérience, la grâce va la leur donner avec Christ et non plus avec Satan. Remarquez, au chapitre 8, combien tout devient compliqué quand on n'a pas suivi le chemin de la foi. L'âme humiliée se retrouve avec Dieu et Dieu peut marcher avec elle. Mais les conséquences du chemin de la chair se font sentir. Dieu s'en servira pour la bénédiction finale, mais, je le répète, le chemin n'a plus la simplicité du sentier primitif de la foi, chemin très simple, car le croyant suit l'ordre de Dieu dans une humble dépendance de sa parole, et la victoire est à lui. Ainsi en fut-il autour de Jéricho. Devant Haï, la même puissance qui avait fait tomber les murs de la ville maudite se trouve, il est vrai, avec Israël et n'a pas changé. Mais l'armée doit faire des manœuvres. Elle se sépare en deux corps, 5000 hommes se mettent en embuscade, le reste du peuple attire les défenseurs d'Haï hors de leur forteresse. Au chapitre 7, les espions avaient dit dans leur rapport « Ils sont peu nombreux, que 2000 ou 3000 environ montent. » Et maintenant, il fallait que 30 000 hommes, vaillants, choisis d'entre eux, montasse contre Haï. Quelle humiliation! comme cela rabaissait Israël dans sa propre estime. Il fallait monter de nuit. Les uns devaient se cacher, les autres feindre de fuir devant l'ennemi. Comment se glorifier de cela? Mais on me dira, vous nous avez montré qu'à Jéricho il n'était pas question de moyens humains, et voici maintenant toutes sortes de combinaisons pour vaincre l'ennemi. Je réponds, s'il vous suffit d'employer des moyens qui mettent en lumière votre incapacité, qui impriment à l'homme le cachet de son entière faiblesse, qui l'humilie en sorte qu'il n'ait d'autre ressource que de fuir devant l'ennemi, à la bonne heure. Mais vous le voudriez que vous ne le pourriez pas. En réalité, cher lecteur, ce ne sont pas plus qu'à Jéricho des moyens humains. La différence est que les dispositions devant Jéricho, Dieu les avait ordonnées afin qu'Israël connût sa puissance, tandis qu'à Haï, il les ordonnait pour que le peuple apprît à connaître sa propre faiblesse. Mais, je le répète, dans l'un et l'autre cas, la puissance de Dieu n'a pas changé. C'est elle qui, devant Haï, donne la victoire à Israël. Josué était là, Josué avec le javelot en sa main. Sur l'ordre de l'Éternel, Josué étendit vers la ville le javelot qui était en sa main. Verset 18. Et Josué ne retira point sa main qu'il avait étendue avec le javelot jusqu'à ce qu'on eût entièrement détruit tous les habitants d'Haï. Verset 26. Elle était restée étendue tout le long du combat. On entend souvent répéter « Qu'importe les divisions, n'avons-nous pas tous le même but ? Ne combattons-nous pas tous pour le même Seigneur, quoique sous des drapeaux différents ? Est-ce donc ce que nous enseignent ces chapitres ? Non. Une grande vérité y domine. Le peuple n'est qu'un. Un dans sa victoire, un dans sa faute, un dans sa défaite, un dans le jugement du mal, un dans sa restauration. Les pauvres enfants de Dieu sont dispersés et divisés, et ils se contentent de dire « Qu'est-ce que cela fait ?» Frères, dans quel but Christ est-il donc mort ? N'est-ce pas pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés ? Jean 11, verset 52. Est-ce Dieu qui les disperse après les avoir rassemblés ? Non. C'est le loup qui disperse les brebis. Jean 10, verset 12. Et nous dirions, qu'importe ? La diversité n'est pas la division, mais elle se montre dans l'unité. L'embuscade prend Haï et y met le feu. Les 25 000 hommes fuient devant l'ennemi, puis se retournent contre lui, avertis par la fumée de la ville. Au moment où ils combattent, l'embuscade sort de la ville pour prendre part à la bataille, verset 22, puis tous ensemble se tournent vers Haï et la frappent au tranchant de l'épée, verset 24. Il y a donc diversité d'action et de service, mais c'est une action commune. Le corps est un. Les diverses parties sont reliées ensemble, et ce qui les relie, c'est Josué avec son javelot. Si l'on ne tient pas compte de cette unité, on est défait dans la bataille. 1 Corinthiens 12 nous montre la diversité liée à l'unité dans l'Église. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Et il y a diversité de services, et le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Versets 4 à 6. Car de même que le corps est un et qu'il y a plusieurs membres, c'est la diversité dans l'unité, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, c'est l'unité dans la diversité, ainsi aussi est le Christ. Nous sommes unis en un seul corps, le Christ, et cependant, chaque enfant de Dieu a sa fonction et sa tâche, que nul ne peut remplir que lui. À chacun est confié un service différent, je ne puis faire le vôtre, ni vous le mien. Maintenant Israël a retrouvé la communion avec Dieu. Dans toute cette scène, la présence de Josué caractérise d'une manière très bénie toute l'activité du peuple. S'agit-il d'entrer en guerre ? Josué se leva avec tout le peuple. Verset 3. S'agit-il des préparatifs du combat? Josué passa cette nuit au milieu du peuple. Verset 9. S'agit-il de se mettre en marche? Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Verset 13. S'agit-il d'attirer l'ennemi? Josué et tout Israël s'enfuirent par le chemin du désert. Verset 15. S'agit-il de le battre? Josué et tout Israël frappèrent les hommes d'Aï. Verset 21. S'agit-il enfin de la victoire définitive? Josué ne retira point sa main qu'on eut entièrement détruit tous les habitants d'Aï. Verset 26. La défaite d'Aï eut pour résultat d'apprendre aux Israélites à mieux connaître à la fois leur propre cœur et le caractère du Dieu qui les conduisait. Avant de considérer les résultats pratiques de cette leçon que Dieu avait donnée à son peuple en le disciplinant, je désire faire un rapprochement entre les chapitres 7 et 8 de Josué et les chapitres 20 et 21 des Juges. C'est un fait connu que la fin du livre des Juges, depuis le chapitre 17, ne suit pas l'ordre chronologique, voir au chapitre 20, verset 28, et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, se tenait devant l'arche en séjour. Mais nous offre un tableau de ce qui s'est passé avant que Dieu suscitât des juges, un tableau de l'histoire d'Israël immédiatement après la mort de Josué. Le déclin avait été rapide et complet. L'idolâtrie et la corruption morale régnaient partout. Au commencement et à la fin de ces chapitres, nous trouvons cette formule « Chacun faisait ce qui était bon à ses yeux ». Plus de dépendance de Dieu, de sa parole. La mesure du bien et du mal, c'était la conscience de l'homme. Chacun se dirigeait d'après sa propre conscience. La conscience était la mesure de la marche. Ce tableau diffère-t-il beaucoup de celui de la chrétienté? Que s'est-il passé après le départ des apôtres? Le déclin a-t-il été moins subi, moins complet? Sans parler des principes corrompus du papisme, la chrétienté protestante éclairée met-elle en avant la parole ou bien la conscience comme règle de conduite? Prêche-t-elle la soumission à la parole de Dieu ou bien la liberté de conscience est-elle son mot d'ordre? Et quel est le résultat lorsqu'on prend sa conscience pour guide? La confusion la plus absolue. Chacun ne tarde pas à se conduire d'après son propre jugement. Mais un péché horrible avait eu lieu à Guiba. Ce n'est pas l'interdit, la faute cachée, comme en Josué 7. C'est un péché commis à la face de Dieu et des hommes. Le misérable Lévite publie lui-même sa honte. Il n'est pas une des tribus d'Israël qui n'en soit instruite. Juges 19, verset 29. Et il entra dans sa maison, et prit le couteau, et saisit sa concubine, et la partagea selon ses eaux en 12 morceaux, et l'envoya dans tous les confins d'Israël. Qu'est-ce que le peuple va faire? Eh bien, comme pour le péché d'Acan, Dieu se servira du péché de Guiba pour mettre à nu l'état moral d'Israël, pour l'humilier et réveiller chez lui la conscience de ce qui est dû à Dieu. Seulement ici, l'état moral des tribus est beaucoup plus bas et plus grave qu'il ne l'était devant Haï. Ils sont indignés, mais du tort qui leur a été fait. La pensée du tort fait à Dieu est absolument absente de leur esprit. Ils parlent de l'infamie que Guiba a commise en Israël, de la méchante action que l'on a commise parmi ceux de la tribu de Benjamin, mais pas le moindre mot de la honte jetée sur le nom de l'Éternel. Comme cela prouve le déclin, et quelle est différente la parole de Phiné aux deux tribus ennemies. Josué 22, verset 16. Quel est ce crime que vous avez commis contre le Dieu d'Israël? À ce premier symptôme du déclin s'en lie un second. Ils avaient abandonné ce qu'on pourrait appeler le premier amour. Le Seigneur n'était plus devant les yeux, l'affection pour lui avait diminué, et par conséquent aussi l'affection pour ceux qui étaient nés de lui. Ils oublient que Benjamin est leur frère. Qui de nous montera le premier pour livrer bataille au fils de Benjamin? Juges 20, verset 18. Ces derniers, de leur côté, ne voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les fils d'Israël. Verset 13. Un troisième symptôme, c'est l'oubli de l'unité du peuple. Remarquez que les 11 tribus formaient en apparence une unité magnifique. Elle était presque aussi belle que lorsqu'Israël se purifia d'Akan et fut restauré devant Haï. Ah, cependant ce n'était plus l'unité de Dieu. Le peuple avait beau être réuni comme un seul homme, verset 1, ou se lever comme un seul homme, verset 8, ou s'unir contre Guiba comme un seul homme, verset 11, Benjamin manquait à l'unité d'Israël, et Dieu n'en reconnaît qu'une. Bien-aimés, ces anneaux du déclin se rivent l'un à l'autre. Oubli de la présence de Dieu, abandon du premier amour, mépris de l'unité, malgré les meilleures apparences. Benjamin n'était-il donc pas coupable? Oui, infiniment coupable. On voit chez lui dès le début le parti pris de ne pas juger le mal. Averti d'un crime patent, aussi bien que les autres tribus, chapitre 19, verset 29, ayant connaissance que l'assemblée des fils d'Israël était en voie de juger le mal, averti enfin, bien que ce fût dans un esprit charnel, qu'il eut à s'en purifier, il se refuse à tout devoir. Il renie l'unité d'Israël en établissant le principe de l'indépendance et, loin de se purifier du crime de Guiba, il s'y associe avec l'inutile et misérable semblant de faire une différence. Chapitre 20, verset 15. Et en ce jour-là furent dénombrés les fils de Benjamin qui vinrent de leur ville, 26 000 hommes tirant l'épée, sans les habitants de Guiba qui furent dénombrés, 700 hommes d'élite. Benjamin devait être jugé, mais l'état du peuple tout entier était si mauvais qu'il rendait le jugement impossible selon Dieu et qu'il lui fallait passer lui-même par le crible avant de pouvoir réellement se purifier du crime de Guiba. Qu'aurait dû faire Israël s'il avait eu un sens droit des choses? S'humilier d'abord en présence de l'Éternel, consulter l'Éternel et puis agir. Au lieu de cela, que font-ils? Ils commencent par se consulter, pauvre résultat de l'oubli de la présence de Dieu. Ils prennent des mesures, ils décident très scripturairement d'ôter le mal du milieu d'Israël, mais en oubliant complètement qu'eux-mêmes sont atteints par le mal, que Benjamin sait eux-mêmes. Après avoir pris tous leurs arrangements et dénombré leurs guerriers, ils montèrent à Bethel et interrogèrent Dieu. Verset 18. C'est, hélas, l'esprit du déclin. C'est ce que l'on trouve partout dans la chrétienté et souvent chez de chers enfants de Dieu, ce que, même, généralement, on érige en principe. Nous nous proposons quelque chose qui semble bon, puis, au moment de l'exécution de nos plans, souvent après avoir tout arrangé, nous demandons à Dieu de nous bénir. Le résultat de cet oubli complet des principes divins, c'est que, dans la première journée, 22 000 hommes d'Israël sont mis par terre. Alors les enfants d'Israël remontent vers l'Éternel en pleurant. C'est la douleur, et non plus l'indignation charnelle qui remplit leur cœur. Ils appellent Benjamin leur frère. L'amour perdu, l'esprit de solidarité se réveille. Puis ils se rangent encore en bataille et perdent 18 000 hommes. Pourquoi cette seconde défaite? Dieu, dans sa bonté, voulait produire un résultat complet. La douleur n'était pas tout, ni la proclamation des liens qui les unissaient. Il fallait un jugement complet de soi-même, la repentance devant Dieu. Il fallait remonter le chemin du déclin jusqu'à retrouver la présence de l'Éternel et sa communion perdue. Aussi est-il dit, « Et tous les fils d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel et pleurèrent et demeurèrent là devant l'Éternel et jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant l'Éternel. » Verset 26. Désormais, nous voyons se dérouler une scène qui offre une très grande analogie avec celle de Haï. Il faut qu'Israël mette une embuscade, verset 29, fuit devant Benjamin, verset 32, que 30 hommes encore, après toutes leurs pertes, soient blessés à mort, que le feu soit mis dans la ville pour servir de signal. Israël, entièrement jugé et rentré en communion avec Dieu, peut désormais rencontrer le pénible devoir de juger le profane Benjamin. Mais alors, que de sanglots, que de larmes, à la suite de la victoire. Chapitre 21, verset 2. Et le peuple vint à Bethel, et ils demeurèrent là jusqu'au soir devant Dieu. Et ils élevèrent leur voix et pleurèrent amèrement, et dirent, « Éternel Dieu d'Israël, pourquoi ceci est-il arrivé en Israël, qu'il manque aujourd'hui à Israël une tribu ?» Comme elle était différente cette scène de celle de Jéricho, où le peuple jetant un grand cri, la muraille tomba sous elle-même. Josué 6, verset 20. C'est qu'il s'agissait ici de leurs frères, d'une tribu presque retranchée par le jugement. Après cela, Dieu dans sa grâce et au milieu de bien des complications amenées par la hâte charnelle des décisions premières d'Israël, Dieu, dis-je, rétablit le grappillage de Benjamin. Mais il est un parti dans l'assemblée d'Israël qui est traité plus sévèrement par le peuple restauré que ne le fut Benjamin lui-même. Jabès de Galaad n'était pas venu au camp, à l'assemblée. Chapitre 21, verset 8. C'était une différence hautement proclamée, une neutralité qui ne tenait aucun compte du mal, bien pire encore que la colère charnelle avec laquelle Benjamin s'était révolté en méprisant une décision de l'assemblée et qui lui avait fait prendre les armes contre ses frères en s'associant au mal. Jabès dut être exterminé à la façon de l'interdit. Résultat de la discipline. Revenons à Josué et au peuple. Israël venait d'apprendre, dans le sentier de l'humiliation, qu'il ne pouvait avoir aucune confiance en lui-même. Cette expérience porte immédiatement ses fruits. Que ce soit désormais la parole qui dirige le peuple. Pour éviter de nouvelles chutes, il n'a qu'à se confier en ce guide parfait. Les versets 27 à 35 nous montrent Josué et le peuple obéissant au commandement de l'Éternel et dépendant de ce qui est écrit au livre de la loi. L'humiliation a pour effet de rappeler au cœur d'Israël et de son conducteur les prescriptions du chapitre 27 du Deutéronome. Bien plus, le supplice du roi d'Aï montre que les détails de la conduite de Josué sont formés sur la parole. Comme le soleil se couchait, Josué commanda et on descendit de l'arbre son cadavre. Voir Deutéronome 21, versets 22 et 23. Et si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'il a été mis à mort, et que tu lui es pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras sans faute le jour même, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu, et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Pour l'homme, ce détail serait sans importance, mais un cœur nourri de la parole ne pouvait le négliger. L'eût-il négligé, Josué serait retombé dans la même faute qui avait appelé le châtiment sur le peuple. Il n'aurait pas tenu compte de la sainteté de Dieu. Son cadavre, est-il dit en Deutéronome 21, ne passera pas la nuit sur le bois, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu. Et tu ne rendras pas impure la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Et encore, en Nombre 35, verset 34, vous ne rendrez pas impur le pays où vous demeurez, au milieu duquel j'habite. Car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des fils d'Israël. En un mot, le Dieu saint ne pouvait demeurer avec la souillure, leçon bénie, enseignée à Josué par le chef de l'armée devant Jéricho, apprise au milieu des larmes en la vallée d'Achor, et librement réalisée au jour de la victoire par une conscience exercée à l'école de Dieu. Le jugement du roi d'Aï nous présente encore une autre leçon. Ce n'est pas sans motif que Deutéronome 21, versets 18 à 23, relie sans interruption les deux faits contenus dans les chapitres 7 et 8 de Josué, le retranchement du méchant et le jugement de l'ennemi. Pratiquement, il en est toujours ainsi. Il faut que l'assemblée ôte le mal du milieu d'elle, avant de pouvoir combattre et réduire au silence le mal du dehors. Si le mal est toléré dans l'Assemblée, vous ne trouverez jamais cette décision et cette fermeté qui traite l'ennemi sans transiger, comme un ennemi, en le mettant d'emblée à la seule place que Dieu lui assigne et dont il est dit « Celui qui est pendu est malédiction de Dieu ». Enfin, j'ai été frappé d'une autre coïncidence dans les versets de Josué que nous étudions. La potence du roi d'Haï était la place du jugement et de la malédiction de l'ennemi d'Israël. Mais voici le peuple obligé de se tenir lui-même sur la montagne d'Ébal, où la malédiction de Dieu est prononcée contre lui. Cette conclusion terrible de la loi, à laquelle Israël ne pouvait échapper, Dieu l'a réduite à néant par la croix de Christ. Note 1. Notons que l'autel ordonné pour cette circonstance fut établi sur la montagne d'Ébal, non sur celle de Garizim. L'autel sur Ébal faisait pour ainsi dire contrepoids en grâce à la malédiction. La malédiction prononcée en Ébal sur l'homme responsable, Christ l'a portée sur la croix pour nous en racheter. Sur la potence d'Haï, Israël pouvait voir en type l'ennemi par excellence, le diable, défait et anéanti, et c'est ce que nous voyons dans la croix de Christ. Mais nous pouvons y voir aussi, comme nous venons de le remarquer, toute la malédiction qui pesait sur nous en Ébal passer à tout jamais dans la réalité du jugement de celui qui a pris cette place pour nous. En Galates 3, versets 10 et 13, nous retrouvons la même relation bénie entre Ébal et la croix, car il est écrit, Deutéronome 27, verset 26, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Ces paroles terminaient les malédictions d'Ébal, mais l'apôtre ajoute « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Voilà le supplice d'Haï. Autre résultat de la discipline, Israël, humilié, est en état de rendre culte. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur la montagne d'Ébal. Et ils offrirent dessus des holocaustes à l'Éternel et sacrifièrent des sacrifices de prospérité. Il en est de même pour nous. Sans le jugement de nous-mêmes, pas de communion. Sans communion, pas de culte. L'autel en Ébal était la provision en grâce pour la malédiction que la loi prononce sur les transgresseurs. À l'autel, nous trouvons la propitiation, base de tout culte vrai, mais ici, en présence d'un peuple menacé de malédiction s'il n'obéit. Notre culte à nous, à la croix pour point de départ et pour centre, la croix qui a mis fin à notre malédiction et ne fait rayonner sur nous que la pleine lumière de la grâce divine. Mais cette grâce elle-même n'affaiblit point la responsabilité des chers enfants de Dieu. Il est des conditions sous lesquelles on prend possession du pays. Un double de la loi de Moïse devait être écrit sur de grandes pierres dressées et enduites de chaux. Deutéronome 27, versets 2 et 3, Josué 8, verset 32. Cette même loi fut lue tout haut devant toute l'assemblée d'Israël, verset 35. N'oublions pas que Jésus-Christ est à la fois pour nous Sauveur et Seigneur, celui qui nous a fait grâce et celui qui a tous les droits sur nous. La connaissance de sa grâce remplit nos bouches de louanges dans le culte. Le sentiment de notre responsabilité nous engage à poursuivre dans la sainteté et la vérité, à combattre le bon combat, à prendre possession du bon pays de la promesse.